Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission du samedi, une émission présentée aujourd'hui par Anna Kubishta. Au programme aujourd'hui, un entretien avec le réalisateur français Jean-Jacques Hano dans la rubrique Culture et une plongée dans les mémoires de la cantatrice tchèque Sonia Červená dans la rubrique Littérature. De passage à Prague, à l'occasion du Festival du film international Febiofest, le réalisateur français Jean-Jacques Hano y a présenté son nouveau film, Le Dernier Loup, qu'il a adapté du best-seller chinois Le Totem du Loup de l'écrivain Jiang Rong. Auteur de films que vous devez avoir certainement vus, comme Le Nom de la Rose, 7 ans au Tibet ou Les Deux Frères, Jean-Jacques Hano avait obtenu l'Oscar du meilleur film étranger pour son premier film, La Victoire en chantant, en 1976. Si dans la première partie de notre entretien que nous vous avons présenté la semaine dernière, Jean-Jacques Hano est revenu au micro de Radio Prague plus en détail sur l'aventure du tournage du Dernier Loup qui a duré plus d'un an et demi, dans la seconde partie de l'entretien que nous vous proposons à présent, Jean-Jacques Hano en dévoile davantage sur son univers cinématographique tout en s'indignant du sort que l'on réserve à notre planète bleue. Un entretien réalisé par Denisa Tomanova.
Culture sans frontières.
Dans vos films, vous aimez souvent remonter le temps et parcourir un peu des contrées inconnues. Est-ce que c'est une volonté de votre part de montrer que justement les hommes, les animaux sont au fond toujours partout pareils, quelle que soit l'époque?
C'est ce que je ressens. Vous savez, je voyage énormément. Je me sens bien dans beaucoup d'endroits. J'ai appris quand j'étais petit qu'il fallait s'ouvrir aux autres. Et puis j'ai eu un moment important dans ma vie. J'avais été envoyé pendant mon service militaire. J'étais envoyé au Cameroun, en Afrique, pour y enseigner le cinéma. Et je détestais l'idée de cette expérience. Et à la seconde où la porte de l'avion s'est ouverte, je suis tombé en amour de ce continent. J'y retourne sans arrêt. Et ce qui me plaît, c'est d'être amené à être ami avec des gens dont je ne partage pas le langage, ni la religion, ni le mode de vie. Et pourtant, je passe des moments formidables d'amitié et de compréhension, souvent bien plus intenses qu'avec mes propres voisins.
Généralement, est-ce que c'est vous-même qui partez à la recherche d'un motif littéraire que vous voudriez transposer sur grand écran, ou alors est-ce que ce sont les différentes histoires, les différents thèmes qui vous trouvent?
Si vous voulez, c'est une espèce d'interaction comme ça. Il y a des thèmes qui ont plus de résonance en moi, et de temps en temps, ça peut être un article dans un journal, ça peut être un chapitre dans un livre d'histoire, ça peut être un roman. Ça pourrait être une pièce de théâtre, ça m'a jamais arrivé encore, mais pourquoi pas, qui me plaît tellement que j'ai envie de faire de cette œuvre initiale un film qui me soit personnel. Par exemple, je vais citer Stalingrad, c'est juste une page dans un livre d'histoire. Mon tout premier film, c'était aussi un tout petit paragraphe dans un bouquin d'histoire. Et puis d'autres fois, c'est complètement des idées originales qui me passent par la tête, et, ou un roman comme Le Nom de la Rose qui m'avait fasciné, parce que ça m'accroche sur des thèmes qui sont les miens. Vous voyez, Le Nom de la Rose, par exemple, quand j'étais enfant, j'étais fils unique, et je faisais je photographiais les monastères. C'était mon truc. Et que du coup, évidemment, quand il y a un bouquin qui se passe comme ça dans un monastère, je tombe à la renverse. Je me dis, mais c'est pour moi ça. Et je cours voir l'auteur en lui disant, voilà, c'est moi, je veux porter ce livre à l'écran. Là, dans le cas de Wolf Totem, du Totem du Loup, c'est un roman qui fédère tellement de thèmes que j'ai déjà traités dans ma vie, et qui sont fortement des thèmes qui sont enracinés à l'intérieur de moi. Évidemment, la relation de l'homme à l'animal, l'équilibre de la nature et de l'homme, la révolte que j'ai de voir cette nature dont nous avons besoin détruite chaque jour un peu plus, et puis aussi cette thématique d'un jeune homme qui voit sa vie transformée par la rencontre et l'immersion dans une nouvelle civilisation. Tout ça, c'était dans ce livre. Donc c'est pour ça qu'on est venu me chercher, c'est pour ça que moi, j'avais, en entendant parler de ce livre, je m'étais dit, ah zut, voilà un truc qui m'aurait passionné, et malheureusement je ne pourrais pas le faire parce que je ne suis pas bienvenu en Chine. Mais au bout du compte, ça se retrouve, on se retrouve, vous voyez, parce qu'il y a un appel mutuel, l'auteur lui-même, à qui l'aventure est arrivée, c'est une autobiographie ce livre, avait pensé à moi en disant, si un jour on fait un film de mon livre, je voudrais que ce soit lui qui le fasse. Et moi, en lisant un article dans la presse française, je me dis, ah, voilà un bouquin que j'aurais adoré faire, voyez. En plus de ça, bon, l'appel de la Mongolie, c'est un pays, une région du monde qui me faisait rêver, que je ne connaissais pas. Je la connaissais par les livres, on m'avait proposé de nombreux films sur Gengis Khan, la révolution culturelle, on m'avait proposé plein de films sur la révolution culturelle. Et puis là, pouf, les choses sont mêlées, et puis on me donne la possibilité et la liberté de faire ce film. Voilà, j'ai passé 7 ans à m'enthousiasmer.
Pensez-vous en fait que de nos jours on a trop souvent tendance à oublier la simplicité justement de la beauté du monde, de la nature, et que par le biais de la façon dont vous faites les films, les films qui vous tiennent à cœur, alors c'est comme une sonnette d'alarme pour les spectateurs?
Bah, si vous voulez, je me pose pas tellement la question. Je suis mes pulsions, je suis ce qui me préoccupe. Et dans ce film-là, c'est venu naturellement, si vous voulez. Quand je voyais ces spectacles grandioses de cette steppe à l'infini, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, est-ce que dans 3 ans, ça sera encore là? Vous voyez, c'est ça. Et moi, je suis assez terrorisé de voir ce qui se passe sur la planète. Plus je vais, plus je suis non seulement révolté, mais extrêmement inquiet. Forcément que j'ai rencontré beaucoup de gens qui se préoccupent des océans qui deviennent des poubelles et qui vont devenir des réservoirs complètement morts de vie. Donc, si vous voulez, comment notre espèce humaine va-t-elle survivre? La question se pose vraiment. Mais on ne veut pas s'en occuper, hein. Personne ne veut s'en occuper. C'est comme le réchauffement climatique, tout le monde dit que c'est la faute de l'autre. N'empêche que, il y aura de plus en plus de tornades qui vont dévaster des régions entières. Il y aura de moins en moins à manger pour les hommes qui se multiplient sans faire attention à ce qu'ils font.
Vous qui êtes un cinéaste globetrotteur, quels sont les liens que vous entretenez avec la République tchèque, ou disons peut-être même avec la cinématographie tchèque?
Écoutez, moi j'étais très, très influencé par les cinématographies de ce qu'on appelait autrefois « au-delà du rideau de fer ». Parce que j'avais un professeur qui s'appelait Georges Sadoul, qui était un marxiste convaincu, qui a écrit des textes formidable, c'est un des plus grands historiens du cinéma, et grâce à lui, nous avons découvert à l'école la grande cinématographie russe, la grande cinématographie tchèque, polonaise, et donc j'ai ici un ami très cher qui est Miloš Forman, évidemment, que j'adore et que je respecte énormément, donc j'adore tous les films, je suis un passionné de Miloš Forman, et j'adore l'homme aussi. Et puis, voyez-vous, lorsque j'ai été amené à faire ce film L'Ours, j'avais envie que le petit ours rêve. Et j'ai choisi de venir le faire, faire rêver à Prague. C'est un homme qui était l'héritier spirituel de Trinka, qui était un grand animateur, qui était un homme qui avait pratiquement inventé ce qu'on appelle stop motion, c'est-à-dire des petits objets qui s'animent, ou des petits animaux, des poupées, des marionnettes qui prennent vie image par image. Et j'ai travaillé avec son assistant et son héritier, d'une certaine manière, qui s'appelait Pojar, Bratislav Pojar, Pojar. C'est lui qui a créé les deux scènes de rêve que j'ai dans le film L'Ours, et je suis venu énormément à cette époque à Prague, qui déjà m'avait beaucoup séduit. C'est une ville qui me plaît à mon cœur romantique.
Václav Richter a lu pour vous les mémoires de la cantatrice tchèque Sonia Červená, prima donna de l'opéra, mais aussi actrice de théâtre qui a passé une grande partie de sa vie en émigration pour revenir finalement dans sa patrie tchèque.
Rencontre littéraire. Les souvenirs de la cantatrice Sonia Červená, Stiskání za Kázáno, Défense d'être nostalgique, publiés aux éditions Opus Musicum, ne sont pas des mémoires classiques. Plus qu'un livre de souvenirs, c'est le récit d'une carrière artistique. La troisième édition de ce livre, qui est paru récemment, couvre pourtant la période entre 1925, année de la naissance de la future cantatrice, et 1989, année de l'effondrement des régimes communistes en Europe centrale. Après les premiers chapitres dans lesquels l'auteur raconte avec esprit et humour son enfance et son adolescence, c'est le théâtre qui devient le personnage principal du livre. La femme s'efface derrière la cantatrice et l'histoire de sa vie se perd dans l'histoire de ses rôles. La vie et la carrière de Sonia Červená ont fusionné et son existence a été un sacrifice. L'artiste a pratiquement renoncé à la vie privée et s'est marié avec le théâtre. Et c'était une grande histoire d'amour. C'est Prague qui est la patrie de Sonia Červená. L'accueil qu'on réserve à la petite Sonia après sa venue au monde en septembre 1925 est loin d'être chaleureux. Sa mère est une femme de la haute société et la naissance de sa deuxième fille est pour elle une complication désagréable qui risque de la gêner pendant la saison des bals. L'enfant indésirable naît prématurément et il semble que ses jours soient comptés, mais la petite Sonia ne se laisse pas vaincre facilement. L'enfant chétive survivra à cette première épreuve de son existence, prendra des forces et finira par susciter même l'affection de sa mère mondaine qui ne voulait pourtant pas d'elle. Ses parents côtoient de nombreux intellectuels et artistes et l'enfance de cette fille de bonne famille se déroule dans un milieu favorable à l'éclosion de son talent. C'est son père Jiří Červený, fondateur du premier cabaret littéraire tchèque, qui aura l'influence décisive sur le choix de sa future carrière. Sonia Červená se souvient.
Byl vlastně spíš introvertní člověk. Nemyslete si, že on byl hrabý.
Il était plutôt introverti. Ne pensez pas que c'était un homme très alegre. Il était avocat, il a ouvert un cabinet d'avocat pour satisfaire ma mère qui était très ambitieuse. Mais il n'aimait pas rester assis à son bureau, il préférait s'asseoir au piano, chanter et composer des chansons. C'est lui qui m'a appris que la musique et la parole sont des partenaires qui ne doivent pas s'escroquer mutuellement. Alors même si j'étais une cantatrice d'opéra, je cherchais toujours à respecter le texte et la parole. C'est pourquoi probablement j'ai attiré l'attention des metteurs en scène avec lesquels j'ai collaboré par la suite.
Asi brali ti režiséři, s kterými jsem potom pracovala.
À 10 ans, Sonia assiste au Théâtre National de Prague à l'opéra Carmen de Georges Bizet et c'est un coup de foudre. Son choix est arrêté, elle sera cantatrice lyrique. Sa famille se désagrège, ses parents divorcent et sa mère se remarie. Sonia déteste d'abord son beau-père et son éducation est confiée à des pensionnats pour jeunes filles. Au moment où éclate la Deuxième Guerre mondiale, elle se trouve dans un pensionnat en Suisse et lorsqu'elle revient à Prague, la ville est envahie par les nazis. Sa mère cherche désespérément à sauver les biens de la famille, mais n'oublie pas pour autant d'aider ceux qui sont dans le besoin. En 1943, la mère est arrêtée et en 1944, elle est déportée dans le camp de concentration de Ravensbrück. Le père, Jiří Červený, est déporté à son tour dans le camp de Térézine. Sonia, qui a 19 ans, est placée sous la surveillance d'une famille allemande qui aménage dans son appartement. le fils de la famille saisit l'occasion et la viole. La guerre finie, il semble que la vie puisse reprendre son cours, mais Sonia n'est pas au bout de ses peines. Ses parents, qui ont réussi à survivre à la déportation, reviennent à Prague et leur fils se marie. Son époux, qui fait partie de la jeunesse dorée de Prague, s'appelle František et possède une usine de chocolat. Sonia s'en souviendra beaucoup plus tard avec humour.
J'ai été jadis épouse d'un fabricant. Oui, mon mari, que j'ai malheureusement perdu trop tôt, était propriétaire d'une usine de chocolat. Et quand on lui offrait des pralines, il disait « Non merci, je sais comment c'est fait ». C'est ainsi qu'il faisait la promotion de sa propre usine. Je ne suis pas très gourmande en chocolat, mais j'en mange parfois, même si je sais comment c'est fait.
Le bonheur du jeune couple ne fera pas long feu. Après le coup de Prague et la prise de pouvoir par les communistes en février 1948, la chocolaterie du mari de Sonia est nationalisée et František, menacé d'arrestation, réussit à émigrer laissant sa femme à Prague. La mère de Sonia n'aura pas cette chance. La femme courageuse qui a survécu à l'enfer de Ravensbrück est de nouveau arrêtée en novembre 1948. Elle ne ressortira plus de la prison communiste. 15 jours après son arrestation, Sonia la retrouve morte à l'Institut de pathologie à Prague. La cause officielle de cette mort subite est le suicide dans la prison, mais Sonia est persuadée que sa mère ne s'est pas suicidée et ne voulait pas partir à l'étranger comme on le prétend. Mais les questions qu'elle ose poser aux autorités carcérales resteront sans réponse. Au bord du désespoir, elle retrouve le salut dans le travail pour le théâtre. Dès 1947, elle est engagée au Théâtre Libéré, où elle doit camper un des rôles principaux dans la version tchèque de la comédie musicale « La vallée du bonheur ». Cette production, acclamée par le public pragois, lui permet de surmonter cette période terrible et de retrouver le goût de la vie. Elle ne s'arrêtera pas là. Depuis son enfance, elle rêve de l'opéra et elle se lance dans la réalisation de son rêve. Elle signe un engagement à l'opéra de Brno, où elle chantera pendant 6 saisons et se fera remarquer par la critique étrangère. En 1958, elle devient membre de l'opéra d'État à Berlin-Est et on commence à l'inviter à chanter dans les plus grands théâtres européens. Mais elle sent aussi que sa célébrité lui attire des ennemis et qu'elle pourrait bientôt se retrouver emprisonnée derrière le rideau de fer. Rester ou partir? Telle est la question qu'elle est obligée de se poser. Pour chanter, pour créer, elle a besoin de liberté et elle prend donc la décision la plus difficile de sa vie.
J'ai émigré de Berlin-Est à Berlin-Ouest et quand je me suis retrouvée de l'autre côté du rideau de fer dans des circonstances assez dramatiques, j'ai reçu un coup de téléphone du directeur de l'opéra de Berlin-Ouest qui m'a immédiatement proposé un engagement parce qu'il connaissait déjà les rôles que j'avais chantés de l'autre côté du mur. Pourquoi me suis-je installée en Allemagne? J'ai ensuite beaucoup voyagé dans le monde. J'ai vécu pendant 11 saisons à San Francisco, mais j'ai choisi l'Allemagne parce que c'est un pays formidable pour les chanteurs d'opéra. Dans chaque ville allemande, ou presque, il y a un opéra avec une troupe lyrique et les représentations sont données tous les soirs. C'est unique au monde. Cela n'existe qu'en Allemagne et chez nous.
Le reste de la biographie de Sonia Červená est une suite interminable d'engagements et de tournées dans les théâtres lyriques les plus prestigieux d'Europe et des États-Unis. Elle se produira dans plus de 4000 représentations et dans chaque rôle qu'elle campe, elle s'investit tout entière, qu'importe si le rôle est grand ou petit. Elle est une des meilleures Carmen de sa génération, mais elle excelle aussi dans d'autres grands rôles du répertoire français, allemand et italien. Interprète recherchée des œuvres d'un compositeur du XXe siècle, elle côtoie les grands chanteurs de son temps et collabore avec les meilleurs metteurs en scène. Et lorsque, vers la fin des années 1980, elle fait ses adieux à la scène lyrique, elle prend un engagement au théâtre Thalia de Hambourg, où elle continuera à jouer et travaillera notamment avec le célèbre metteur en scène Robert Wilson. Pendant toutes ces années, un seul homme arrive à éveiller sa profonde sympathie et à l'enlever à ses intenses activités théâtrales. Les rares moments de bonheur passés en compagnie de cet homme mystérieux dont elle se garde de révéler l'identité dans ses mémoires sont les seules périodes de sa vie qui ne sont pas consacrées entièrement au théâtre. Pendant tout ce temps, Sonia est convaincue qu'elle ne rêvera jamais sa patrie tchèque.
Co mě chybělo, právě byla ta Vltava. A jak Praha, tak...
S kým manqué, c'était la Vltava, ma rivière, et aussi Prague et Hradec Králové. Mais je me suis interdite la nostalgie. J'ai rencontré à l'étranger tant d'émigrés qui se sont laissés complètement détruire par la nostalgie de leur pays. Une vaine nostalgie que je me suis dit. Non, je ne me laisserai pas détruire. Mais j'ai gardé et sauvegardé ma langue tchèque. Je me suis promise. On peut me prendre tout, mais on ne me prendra pas ma langue maternelle. Alors quand je suis revenue, je parlais parfaitement tchèque. Je vénérais et aimais la langue tchèque.
Mluvila jsem perfektně česky. Prostě tu češtinu jsem ctila a milovala.
La chute du régime communiste en 1989 permet à Sonia Červená de retourner à Prague, de se réinstaller au bord de la Vltava, de jouer dans des théâtres tchèques. Malgré son âge avancé, elle laisse aux autres le droit de partir à la retraite. Toujours étonnamment active, elle garde une jeunesse intérieure, une jeunesse de cœur. Elle n'aime pas se retourner en arrière, elle attend toujours ce que la ville lui apportera. Elle a retrouvé son pays, mais elle reste libre. C'est ainsi qu'elle résume sa vie de nomade.
Au fond, je ne cherchais pas un foyer. Je n'en ai déjà pas eu quand j'étais enfant. Ce n'est pas un reproche adressé à mes parents, mais je n'avais pas un chez-moi. Mon père aimait son cabaret, ma mère aimait les bals et la vie mondaine. J'avais toujours d'excellentes gouvernantes, etc. Mais ce n'était pas un véritable foyer. Je ne me suis pas habituée à avoir un foyer à moi et je ne le souhaitais même pas, heureusement. Et c'est pourquoi je n'ai jamais fondé un foyer à l'étranger. Je n'ai jamais eu une maison ou une famille. J'étais un oiseau migrateur. J'ai vécu seule et j'ai été heureuse.
J'étais byla tažný pták. Žila jsem sama a byla jsem šťastná.
C'est la fin de notre émission de samedi consacrée à la culture et la littérature. Dimanche, retrouvez notre émission musicale qui sera consacrée cette semaine au compositeur Josef Myslivecek. Retrouvez tout le reste des infos tchèques sur Radio Prague, www.radio.cz/fr, mais également sur Facebook et sur Twitter. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.